Si je vous pose la question, qu'est-ce que célèbre la fête de l'Épiphanie ? Vous allez me répondre, la venue des rois mages à Bethléem pour adorer l'enfant Jésus. Et vous aurez raison, en tout cas en partie, et en partie seulement. L'historique de cette fête et son sens profond est bien plus compliqué qu'il n'y paraît aujourd'hui.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
Ce terme même d'épiphanie est quelque peu ambigu, ou tout au moins très général. Il signifie « manifestation ». Autrement dit, épiphanie marque la manifestation de Dieu au milieu des hommes. Mais d'emblée, nous réalisons qu'il n'y a pas qu'une manifestation de Dieu au milieu des hommes, d'après la tradition chrétienne. Voilà pourquoi, jusqu'à la fin du IVe siècle et sans doute depuis le IIe siècle, l'épiphanie, c'est la grande et unique fête chrétienne. La fête de la manifestation de Dieu à travers Jésus le Christ. Cette manifestation prend différents aspects. La nativité, tout d'abord. La venue des mages, ensuite. La voix du Père et la présence d'une colombe de l'Esprit-Saint lors du baptême de Jésus dans le Jourdain. Et donc, tous ces événements que nous venons de citer jusqu'au IVe siècle sont fêtés en une seule et unique fête qui s'intitule l'Épiphanie. Cette fête a été placée le 6 janvier, c'est une date choisie par le père de l'Église qui s'appelait Épiphane de Salamine, et il l'avait choisie car pour lui, c'était la date de naissance de Jésus. La situation va évoluer au cours des siècles, et notamment la venue des mages va être dissociée du baptême de Jésus et de la nativité, pour être commémorée d'une manière particulière. Mais on comprend à partir de cette racine commune qu'en réalité l'épiphanie est encore aujourd'hui dans un certain nombre de pays, je pense par exemple à l'Espagne, une fête plus importante que celle de Noël, une fête où les enfants reçoivent des cadeaux à l'image des rois mages qui ont apporté leur présent aux pieds de Jésus. Dans ces trois éléments, Jésus se manifestait comme le Fils de Dieu. Autrement dit, il apparaissait aux yeux du monde comme envoyé par Dieu. Dans la nativité, cela est clair, d'après le message donné par les anges aux bergers, dans la venue des mages, il y a une reconnaissance de la royauté, si ce n'est de la divinité, de cet enfant. Dans le baptême, il y a l'attestation, je dirais, officielle du Père et du Saint-Esprit que Jésus, plongé dans les eaux du Jourdain, est bien le Christ. Pour l'instant, essayons de remonter aux origines de cette fête. Bien sûr, comme toutes les fêtes chrétiennes, elle tient ses racines dans l'Antiquité, à travers une ou plusieurs fêtes païennes. Dans l'Antiquité, l'Épiphanie s'inscrit dans le cycle qui commence au solstice d'hiver, le 22 décembre. Cette nuit du solstice, la plus longue de l'année, annonce le rallongement des jours et par extension la renaissance de la lumière censée être à l'origine de toute chose, notamment dans le calendrier agricole. On célébrait donc, à ce moment-là, une fête, celle de la manifestation, en grec épiphanie, de la lumière. À cette époque, il y avait une tradition bien particulière aux Saturnales. Les esclaves étaient invités à partager un gâteau avec les maîtres. S'ils tombaient sur la fève dans le gâteau, il devenait prince des Saturnales et avait le droit d'obtenir tout ce qu'il souhaitait pendant une journée. La tradition populaire est demeurée et veut qu'au jour de l'Épiphanie, nous tirions les rois à travers la galette et la fève. C'est à partir du 5e siècle que l'Église d'Occident va célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre, qui donnera la fête de Noël, et gardera le 6 janvier la manifestation de Dieu aux païens en la personne des mages. Selon une tradition venant du 7e siècle, les mages dont parle l'Évangile selon saint Matthieu seraient des rois mages. Ces rois mages sont, selon donc cette tradition, au nombre de 3, bien que le récit évangélique ne parle pas de nombre. En réalité, le chiffre 3 est un chiffre très symbolique. D'abord, il symbolise les 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, qui sont les seuls continents connus à cette époque. Ils peuvent également rappeler les 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, d'où toute l'humanité est originaire. Et ce chiffre 3, il est également présent dans les cadeaux qui, selon l'Évangile, ont été offerts à Jésus, à savoir l'or, l'encens et la myrrhe. Ces personnages, en observant le ciel, ont vu que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Et ils ont interprété cette apparition, sans doute, d'une nouvelle étoile qu'ils ne connaissaient pas, comme la naissance d'un personnage important, un roi, peut-être même un dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont mis en route, non pas pour suivre l'étoile et voir où elle allait, mais pour aller jusqu'à ce personnage tellement important qui venait de naître. Dans l'Église orthodoxe, l'Épiphanie commémore le baptême du Christ dans le Jourdain. La descente du Fils de Dieu au milieu de sa création est la manifestation de la divine Trinité, car il y a présent dans cet événement la voix du Père qui témoigne du Fils et la colombe de l'Esprit-Saint qui descend sur lui. La fête s'appelle généralement Théophanie, manifestation de Dieu. Elle est célébrée le 6 janvier à Jérusalem, au Mont Athos, en Russie, en Serbie et en Géorgie. Elle est célébrée le 7 janvier dans d'autres pays. Attachons-nous maintenant à l'Église arménienne. Eh bien, pour elle, la fête de l'Épiphanie, c'est la plus grande des fêtes de l'année. Car Noël, chez les Arméniens, n'est pas fêté le 25 décembre. Mais ils ont conservé l'usage chrétien ancien et fête la naissance de Jésus le 6 janvier. Cela correspond, nous l'avons vu, aux anciennes traditions des premières églises chrétienne et même aux traditions familiales de l'époque, selon lesquelles un enfant ne devient le fils de son père que le jour où on le présente à lui et le jour où le père reconnaît officiellement son fils. Le baptême de Jésus dans le Jourdain correspond donc, aux yeux de l'Église arménienne, à cette présentation du fils au père. C'est aussi l'acte de la soumission de Jésus à la volonté du Père, et c'est aussi la date où le Père se révèle à lui. La nativité fêtée dans ce contexte prend alors une signification plus théologique, puisque c'est aussi traditionnellement la date par laquelle il reçoit du Père la révélation de sa mission prophétique. Pour achever notre petite étude à propos de la fête de l'Épiphanie, nous allons regarder quelques traditions populaires qui sont attachées à la célébration de cette fête. La tradition veut que, pour le jour de cette fête, on partage un gâteau dans lequel est dissimulée une fève. Il n'y a pas si longtemps encore, en Moselle, des garçons déguisés en rois mages allaient de maison en maison en chantant, tout en faisant tourner une étoile montée sur un bâton. Ils obtenaient de la part des voisins des friandises ou quelques petites pièces. On retrouve cette coutume d'ailleurs en Belgique et aux Pays-Bas où les enfants parcourent les rues en chantant la chanson de l'étoile pour recevoir des mandarines et des bonbons. Dans le sud des États-Unis, la tradition de tirer les rois existe aussi sous le nom de King Cake. Ceux-ci sont mangés pendant la période qui va de l'Épiphanie jusqu'au carnaval. En Grèce et à Chypre, il n'y a pas de galette des rois à proprement parler. Il y a la Vassilopita, qui est aujourd'hui une galette en l'honneur de Saint Basile de Césarée. Cette galette est préparée la veille du Nouvel An, puisque Saint Basile est honoré au 1er janvier, date anniversaire de sa mort. On y dissimulait traditionnellement une petite pièce d'or. Rendant ainsi à Saint Basile ce qu'était à Saint Basile, car lorsque sa ville de Césarée avait été assiégée, l'évêque avait collecté le prix de la rançon pour libérer la ville. Mais voilà, une fois la rançon payée, il lui restait de l'argent. Alors il eut cette idée de mettre une pièce dans des galettes pour que Dieu se charge de distribuer lui-même l'argent qui restait.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.